Merci d'être à l'écoute de cette histoire incroyable et improbable du football des années 80. Le gardien et le dictateur, ou la terrible histoire de Helmut du cadavre. Mai 1986, au stade Ramon Sanchez Pizjuan à Séville. Il est 20h15 quand le coup d'envoi de cette finale de Coupe des Champions est donné par l'arbitre français Michel Vautreau. Le stade est à son comble pour cette rencontre. Deux finalistes que tout oppose. D'un côté, le FC Barcelone, club européen de renom mené par son brillant meneur de jeu ouest-allemand Bernd Schuster, et de l'autre, le Steaua Bucarest, club phare du régime communiste mené d'une main de fer par le dictateur Nicolae Ceausescu. Ce soir-là, les 70 000 places du stade Ramon Sanchez Pizjuan sont prises d'assaut. Les supporters barcelonais sont venus en masse encourager leur équipe. Barcelone joue quasiment à domicile ce soir-là, confortant ainsi son statut de favori. Les spectateurs assistent à une piètre performance des 22 joueurs. Le jeu se concentre essentiellement au milieu de terrain, avec des acteurs attachés à ne pas laisser d'espace à leurs adversaires. Les joueurs roumains demeurent regroupés alors que les Barcelonais semblent paralysés à l'idée de remporter leur première Coupe d'Europe. 0-0, le public s'impatiente. La tension monte et le doute atteint les 22 acteurs du terrain. Deux prolongations de 15 minutes n'y changeront rien. Aucune des deux équipes ne prend le dessus. Une d'elles sera cependant, dans quelques minutes, sacrée championne d'Europe. Et ce sont les tirs au but qui déclareront le vainqueur. Contrairement aux 120 minutes peu spectaculaires présentées lors par les deux équipes, cette séance de tir au but est tout bonnement exceptionnelle. Les joueurs roumains gagnent le toss, c'est eux qui démarreront la séance des tirs au but. Madia Arou, l'ailier droit quasi transparent tout au long de la rencontre, prend le ballon entre les mains et le place délicatement sur le point de pénalty sous le regard avisé de l'arbitre. Madia Arou s'élance face à Uluti, le gardien espagnol, qui dévie la frappe partie sur sa gauche. Les spectateurs catalans exultent. Se présente alors Aletchenko, le défenseur central catalan devant le gardien roumain Helmut du cadavre. Il s'élance et frappe sur la droite du gardien qui s'étend de Solon pour sortir la frappe. 0-0 toujours. Deuxième tireur roumain, Laszlo Bologni, que nous connaîtrons bien plus tard, entraîneur sur les bancs de touche français, place une frappe à mi-hauteur. Le gardien barcelonais part du bon côté. Pedraza place son ballon et espère inscrire le premier tir au but de la séance. Une profonde respiration, une course d'élan courte, une frappe précise à ras de terre Il n'en est rien. Le gardien roumain réalise lui aussi son second arrêt. C'est alors que le troisième tireur romain Lacatus inscrit le premier but de cette séance en plaçant une lourde frappe plein axe qui heurte la barre puis rebondit dans les buts. Imparable. La pression est alors du côté de Barcelone. Pichi Alonso, l'attaquant entré en jeu durant les prolongations, est désigné. Prise d'élan et frappe croisée une nouvelle fois à droite du gardien roumain. Et incroyable, Helmut De Kodam plonge et stoppe une nouvelle fois un tir au but barcelonais. 1-0 donc pour le Stuja, puis 2-0 lorsque Balint trompe le gardien espagnol sur un contre-pied maîtrisé. C'est alors que Victor Muñoz, l'ailier virevoltant du FC Barcelone, se présente. La situation est simple. S'il rate son tir au but, le Steaua Bucarest sera champion d'Europe. Tout le monde retient son souffle. La pression est sans doute trop forte. Muñoz écrase sa frappe qui est facilement captée par De Kodam, parti une nouvelle fois du bon côté. De Kodam exulte, saute de joie. Il vient d'arrêter, chose incroyable, les 4 tirs au but catalans. De Kodam est le héros de cette finale, mais ne sait pas encore qu'il vient de vivre son dernier match professionnel. Victoire du Stuja est bien entendu, dans ce contexte de guerre froide, une victoire politique du régime communiste de Ceausescu. Le football est alors en Roumanie le sport roi et fait office de soupape sociale pour un peuple qui subit la férocité d'un régime totalitaire via sa police politique, la Securitate. Le football est à cette époque l'unique possibilité pour les Romains de se distraire. Le championnat roumain est alors dominé par quelques clubs, comme le Stuja Bucarest, club préféré de Valentin Ceausescu, fils aîné du dictateur, ou encore le Dynamo Bucarest. Mais tous les stades des clubs roumains se remplissent chaque week-end pour assister aux rencontres et oublier le temps de 90 minutes, la misère et le malheur orchestrés par un régime presque en fin de course. Jouer au football permet également aux meilleurs footballeurs du pays de bénéficier de conditions de vie supérieures à ce que connaît le travailleur roumain moyen. Les meilleurs joueurs se retrouvent ainsi au Dynamo ou au Steaua, qui se partagent tous les titres de champion de Roumanie entre 1981 et 1989. Pour les meilleurs joueurs, le football constitue la clé d'une liberté disparue pour la quasi-totalité des Roumains, celle de voyager. Helmut de Kedam déclarait justement « Être footballeur professionnel est un privilège inimaginable. Jouer pour le Steaua et l'équipe nationale fut pour moi une grande opportunité de voir d'autres pays, d'autres conditions de vie. » C'est difficile d'expliquer ça aujourd'hui quand on peut circuler partout dans le monde. Pourtant, rien ne prédit Helmut de Kedam de devenir un soir le héros de tout un peuple. Helmut de Kedam est né le 1er février 1959 à Semlac, un petit village perdu dans l'ouest de la Roumanie, non loin de la frontière hongroise. On sait très peu de choses de son enfance. Il commence à jouer dès ses 15 ans dans la ligue régionale du Județ d'Arad. Et en 78, il est repéré assez vite et intègre à 19 ans le club professionnel de l'UT d'Arad. Et il y signe son premier contrat. En 1981, son club accède à la première division roumaine. Le club obtient cependant des résultats irréguliers et finit par être relégué à l'issue de cette saison. Les prestations de de Kedam sont cependant repérées. Il ne tarde pas à rejoindre la sélection roumaine et il signe dans la foulée au Steaua Bucarest qui cherche à se renforcer suite à une saison décevante. Lors de la saison 84-85, de Kedam remporte son premier titre de champion de Roumanie. Il réalise même le doublé en gagnant la coupe. La saison suivante sera la saison de sa consécration, mais aussi de sa disparition. Au 7 mai 1986. De Kedam, vêtu d'une tenue verte et de chaussettes couleur chair, exulte. Il vient de sortir les 4 pénaltys barcelonais. Sa joie est alors immense. Les poings serrés, il saute, rejoint ses partenaires au centre de la pelouse, devant un Juan Carlos en tribune totalement médusé à l'idée de voir la coupe aux grandes oreilles partir en Roumanie. Qu'importe, cette soirée sera celle de Kedam. Des adolescents s'empressent de retrouver le gardien roumain afin de récupérer ses gants et son maillot. Mais en vain. S'ensuit un tour du terrain de l'équipe du Steaua. Ce sont les dernières secondes du gardien roumain en tant que footballeur professionnel. Le lendemain, l'équipe et le staff du Steaua atterrissent à l'aéroport d'Otopeni, situé à 10 km du centre de Bucarest. 15 000 personnes venues à pied souhaitent rendre hommage au héros. Plus tard dans la journée, l'équipe est reçue à la Maison du Peuple par Ceausescu lui-même. Comme tout événement majeur en Roumanie, la Securitate se montre bien présente pour rappeler aux vainqueurs de la finale qu'il serait malvenu de tirer une gloire plus importante que celle du Condusator Ceausescu. L'ambiance se détend au fur et à mesure de la cérémonie. Après le discours présidentiel, tous les joueurs viennent un à un récupérer leur médaille du peuple. La cérémonie se clôt autour d'une coupette de champagne. Ducadam est tout sourire. Ducadam ne réapparaîtra plus pendant 3 ans, soit à la fin du régime communiste marqué par l'exécution du couple présidentiel. Officiellement, Ducadam déclare qu'un souci de santé, un caillot sanguin l'empêche de reprendre le chemin des terrains de foot. Il n'en est rien, et la cause de sa disparition des terrains est bien plus sordide. À son retour de Séville, Helmut Ducadam reçoit les félicitations du club rival de Barcelone, le Real de Madrid, tout heureux de voir le club catalan échouer en finale de Coupe des Champions. Le président madrilène, Ramon Adil Mendoza, annonce qu'il remettra un cadeau personnel surprenant en faveur du gardien roumain, une Mercedes 190E. Un cadeau d'une valeur extraordinaire pour quelconque citoyen roumain, et un cadeau pouvant susciter la jalousie de certains proches du régime de Ceausescu. Nicu Ceausescu, fils cadet de Nicolas, intervient fréquemment sur les questions de politique intérieure. Il est également amateur de belles voitures et voit dans ce cadeau un outrage à son autorité. Il réclame alors auprès du gardien de renoncer à cette Mercedes et de la lui remettre. Ducadam refuse et Nicu ordonne immédiatement son arrestation. Pendant 3 jours, Ducadam subit les affres de la Securitate. Ses phalanges sont une à une retournées, ses poignets brisés. Quelques jours plus tard, Ducadam est balancé d'une voiture au pied des marches de l'hôpital de Bucarest. Il ne réapparaîtra que 3 ans plus tard sur le terrain d'un modeste club amateur de seconde division. Aujourd'hui, devenu président du Steaua Bucarest depuis 2010, Ducadam refuse toujours de parler de ces 3 années douloureuses qui suivirent cette finale de Coupe des Champions. Parcours et carrière atypiques que celle de Ducadam, où le politique s'immisçait encore de manière rugueuse dans la sphère sportive. Ducadam garde toujours en lui le souvenir de cette victoire, celle que rêve de gagner tout joueur de foot avec son club. De sa carrière et de cet incident avec la police politique roumaine, Ducadam se montre toujours très réservé et modeste. Il déclare en 2014 « J'ai eu la chance de partir du bon côté sur le premier tir. Ensuite, c'est la psychologie qui a fait le reste. N'importe quel gardien aurait pensé pareil. » Sans doute que l'exploit de Ducadam demeure encore l'un des rares souvenirs joyeux de la Roumanie du couple Ceausescu. Merci infiniment de votre écoute et peut-être à bientôt.